Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à la une du 13-14 aujourd'hui. Le suspense sur l'avenir du pass sanitaire va-t-il être supprimé? Va-t-il être assoupli? Réponse en ce moment même par la voix du porte-parole du gouvernement. La décrue épidémique se confirme selon Gabriel Attal. On fera le point sur les annonces sanitaires dans le journal. Budget irresponsable, budget de campagne. Les critiques pleuvent contre la feuille de route dévoilée aujourd'hui par le ministère des Finances. 11 milliards de dépenses supplémentaires au moins pour l'année de l'élection présidentielle. Le gouvernement se défend de faire une politique du carnet de chèques.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépensé sans compter, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge.
On entendra la colère de Bruno Le Maire et on fera les comptes dans quelques minutes. Mieux accompagner les mourants dans notre pays qui le fait si mal. L'objectif du plan pour la fin de vie annoncé ce matin par le ministre de la Santé. Une mesure choc, le midazolam utilisé pour la sédation à l'hôpital serait autorisé aux médecins de ville. La psychiatre Sarah Doshi sera notre première invitée. Elle dirige le Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. À 13h30, notre deuxième invitée parlera pouvoir d'achat, rémunération des agriculteurs et écologie. Christiane Lambert, patronne de la FNSEA, sera avec nous, son syndicat tient congrès en ce moment. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Dans ce journal encore, le parquet financier ouvre une enquête contre le patron de Total pour prise illégale d'intérêt. Limiter la vitesse sur les routes pour éviter les accidents, mesures mises en place dans certains départements, mais au ralenti, on le verra. Votre chronique cinéma nous emmène notamment à Marseille avec Matt Damon et puis Frédéric Pommier nous fera écouter et pourquoi pas chanter du Dalida. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Face au reflux de l'épidémie de Covid, va-t-on bientôt se passer du pass? Question sur la table du Conseil de défense du gouvernement ce matin. Jusqu'ici, la date officielle pour mettre fin au sésame qui ouvre la porte des lieux culturels, restaurants et autres, cette date était le 15 novembre. Mais un projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres mi-octobre pour prolonger le dispositif avec des assouplissements là où le taux d'incidence de la Covid est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. C'est le cas dans une quarantaine de départements, dont la Lozère, où Saïd Makhloufi a rencontré des habitants impatients de voir cette restriction levée.
Le pass sanitaire, oui. On l'allège ou pas?
Ça me gêne pas, moi, d'avoir un masque sur le pif. Hein.
Surtout que vous, là, vous êtes en terrasse, vous lisez l'équipe, le café, donc c'est que vous êtes vacciné.
Ouais, il n'y a pas de problème. Hein.
Donc pas de problème pour Roger, il est vacciné. Mais Sandra, elle aussi installée à côté en terrasse, dispose, elle, d'un test PCR. Et là, c'est plus la même histoire.
Mais tout le temps, aller au labo, à la pharmacie ou autre, faire un test, enfin, tous les trois jours, c'est... Ouais.
Le pass sanitaire est devenu source de conflits.
Bah, je trouve que ça serait mieux parce que ça fait tout le temps des conflits et puis je trouve pas ça normal, quoi. Voilà.
Ça divise.
Ouais, ça divise, exactement.
Permettre un accès libre au café et au restaurant le plus tôt possible, c'est la chose à faire, estime Claudine.
Au niveau de la restauration et des bars, moi je pense que oui, maintenant on peut lâcher les contraintes parce que les gens quand même, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus vaccinés, d'autant plus que nous, on a toujours le masque et que les clients pour les déplacements et tout ça dans les établissements gardent le masque. Donc je pense que... Et puis bon, là quand même, on voit bien qu'au niveau des chiffres, ça baisse.
Après un été difficile. Le département est repassé la semaine dernière en dessous des 50 cas pour 100 000 habitants.
Reportage France Bleu, Gare-Lozère. Et on retrouve tout de suite Maxence Lambrec à l'Élysée. Bonjour Maxence.
Bonjour à tous.
Sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal nous dit que la décrue épidémique se confirme. Et donc, on a déjà quelques éléments sur une éventuelle levée de certaines restrictions sanitaires.
Oui, la principale annonce que vient de faire le porte-parole du gouvernement, c'est la fin du port du masque à l'école primaire pour tous les enfants âgés de 6 à 11 ans. La fin du masque à l'école primaire dans tous les départements où le taux d'incidence se stabilise sous les 50, et c'est le cas de plus de la moitié des départements français actuellement. À partir du 4 octobre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, le masque ne sera plus obligatoire à l'école primaire, considérant que c'est une vraie contrainte et que Emmanuel Macron s'était engagé à adapter le dispositif et à le territorialiser. Donc c'est la première et la principale mesure, car finalement le Conseil de défense n'a pas tranché sur le pass sanitaire. Le pass sanitaire reste d'actualité, reste en vigueur sur le papier au moins jusqu'au 15 novembre. Et évidemment, le porte-parole du gouvernement assure que cette situation peut évoluer, que chaque semaine, en tout cas, chaque Conseil de défense, le pass sanitaire sera sur la table et on verra s'il y aura de nouvelles adaptations. l'impression, en tout cas, Emmanuel Macron cherche à montrer qu'il n'est pas le président liberticide et que petit à petit, il fait évoluer le dispositif.
Maxence Lambrecq en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Restez avec nous hein, s'il y a d'autres annonces, vous nous en ferez part bien sûr d'ici la fin de ce journal sur l'antenne de France Inter. Le Haut-Rhin, lui, est encore bien au-dessus du taux limite de contamination, mais ce n'est pas pour ça ou pas seulement que l'hôpital de Mulhouse a dû déclencher le plan blanc. Le groupe de 10 établissements manque de soignants. 170 salariés non vaccinés ont en effet été suspendus. Un petit pourcentage des 6000 employés, mais de quoi dérégler la machine. Matinée chargée pour le gouvernement avec ce conseil de défense matinal, donc, mais aussi la présentation du budget 2022 au ministère des Finances. Les dépenses supplémentaires ne s'arrêtent pas avec la fin du quoi qu'il en coûte. Presque tous les ministères sortent gagnants de leurs négociations avec Bercy cette année. L'État va officiellement débourser 11 milliards d'euros supplémentaires. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Vous étiez au ministère ce matin, le ministre des Finances a dévoilé quelques détails. Hein.
Oui, c'est un budget de relance et d'investissement, explique Bruno Le Maire. D'abord, l'enveloppe des ministères va gonfler l'an prochain, plus 12 milliards d'euros environ. Grand gagnant, le régalien, les armées, la justice, l'intérieur, la recherche et l'éducation. La fonction publique d'État va gagner environ 700 postes l'an prochain. Seuls Bercy et la transition écologique devront faire avec moins de fonctionnaires. Dans ce budget 2022, deux cases restent vides, celle du revenu d'engagement pour les jeunes et celle du plan d'investissement, 30 milliards d'euros prévus sur 10 ans. Le gouvernement intégrera ces mesures par amendement pendant le débat au Parlement.
Ce généreux projet de budget est déjà très critiqué, taxé d'électoraliste par l'opposition. Xavier Bertrand, un des candidats de droite à la présidentielle, qualifie Emmanuel Macron de président de la dette. Et même le Haut Conseil des Finances Publiques, instance indépendante, dénonce un projet incomplet. Autant de critiques auxquelles Bruno Le Maire a voulu répondre ce matin, Delphine.
Oui, le ministre de l'économie monte au créneau pour défendre le sérieux de son budget. Une partie des 8 milliards d'euros de crédits d'urgence non dépensés va servir à combler le déficit public. Sur la croissance et sur les recettes de cotisations sociales, Bercy se montre plus prudent que la plupart des économistes. Bref, face aux critiques, Bruno Le Maire affiche la sincérité totale du gouvernement.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépensé sans compter, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge. Le PLF 2022 est sincère. C'est-à-dire que tout est sur la table. Et que même ce qui n'est pas sur la table, nous le disons aux Français très clairement. Le plan d'investissement, c'est un calibrage qui est complexe à faire, parce que c'est des investissements sur 10 ans, donc ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Et sur les jeunes, la situation a changé, puisque nous avons aujourd'hui des pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs.
Pas de politique du chéquier, donc les mesures seront pour partie financées par le plan de relance. Les autres budgétés depuis juillet, explique-t-il. Les sages budgétaires du Haut Conseil des Finances Publiques réclament malgré tout ce matin des précisions quand le gouvernement aura pris ses arbitrages.
Delphine Simon, service économie de France Inter, merci à vous. Une bonne nouvelle pour les finances publiques, net ralentissement des dépenses de santé après la crise Covid. Ce sera dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale vendredi. Elles augmenteront de 0,6% l'an prochain contre plus de 7% cette année. L'embellie économique est-elle déjà là? En tout cas, le groupe de luxe LVMH prévoit 25 000 recrutements de jeunes de moins de 30 ans. D'ici la fin de l'année prochaine, 1 sur 10 sera un CDI en France. Le chiffre comprend aussi 5 000 contrats de stage et d'apprentissage. On meurt mal en France. Les soignants et les aidants font ce constat depuis des années, mal accompagnés et dans la souffrance. Un tiers seulement de ceux qui devraient bénéficier de soins palliatifs y ont réellement accès. Ce constat, le ministre de la Santé ne peut pas l'ignorer. Olivier Véran est intervenu ce matin au congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il a annoncé un plan pour la fin de vie, le cinquième du genre. Véronique Julia, dans les grandes lignes, il s'agit de développer une culture palliative chez nous et ça va assez loin.
Soulager la douleur, respecter la volonté du patient, prendre soin de l'entourage, préparer la fin de vie de manière précoce en anticipant le parcours dès l'annonce d'un diagnostic de maladie incurable, par exemple. Ce sont les fils conducteurs de ce plan doté de 171 millions d'euros sur la période 2021-2024, dont 59 millions de mesures nouvelles. Le ministre n'est pas vraiment entré dans le détail ce matin, mais il donne les grandes lignes. L'offre de soins palliatifs est inégalement répartie sur le territoire. 26 départements, par exemple, ne sont pas dotés d'unités spécifiques. Il veut que le maillot Ariège soit complet. Ça implique des recrutements dans un secteur qui n'est pas très attractif, des formations dédiées, des postes mieux rémunérés, le renforcement aussi d'équipes mobiles pour des prises en charge à domicile. Plus largement, il veut que la culture palliative se diffuse davantage, que des cellules territoriales coordonnent les parcours, expliquent les bonnes pratiques. Enfin promise depuis des mois et très attendue par les médecins libéraux, le ministre autorise la mise à disposition du midazolam aux médecins de ville dès la fin de cette année. C'est un puissant sédatif qui permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès, tel que défini par la loi Claeys-Leonetti de 2016.
Et pour parler de ces nouvelles mesures, en ligne avec nous, Sarah Doshi, présidente du Conseil d'orientation stratégique du Centre national des centres palliatifs et de fin de vie. Bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous de ces annonces? Est-ce qu'elles vont assez loin?
Ce sont des annonces qui étaient très attendues par les professionnels, notamment dans l'association des mesures en matière d'égalité d'accès et de l'anticipation. Vous avez dit tout à l'heure que un tiers seulement des Français bénéficiaient de soins palliatifs. Il faut savoir que les soins palliatifs, ce sont des soins qui justement débutent avant les soins palliatifs et débutent à partir du moment où la culture palliative s'installe et à partir du moment où on peut commencer à anticiper la fin de vie ou au moins à rendre possible pour le patient de l'anticiper s'il le souhaite. Et donc, dans ces mesures proposées par le ministre ce matin, l'association des deux est ce qui va permettre vraiment d'atteindre l'objectif, puisque augmenter les ressources passe par augmenter la formation, mais la formation de l'ensemble des acteurs, et c'est parce qu'on anticipe que l'ensemble des Français vont pouvoir voir une amélioration via un accès aux soins palliatifs spécialisés pour ceux qui ont besoin d'expertise, via un simple parcours d'anticipation, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui n'auront pas forcément besoin de cet accès aux structures spécialisées.
Et là, vous me parlez de la formation, de la culture du palliatif, mais le midazolam, ce médicament qui va pouvoir être utilisé par les médecins de ville, c'est également une bonne nouvelle?
Oui, parce que le souhait des Français de mourir à domicile est encore insuffisamment possible. Plus de la moitié des décès se font encore à l'hôpital, moins d'un quart à domicile. Les volontés des Français sont de mourir plus largement à leur domicile. Et oui, il faut que cette molécule soit disponible et il faut surtout que l'ensemble du système s'adapte. Et c'est ce qui a aussi été annoncé dans les mesures du plan, c'est-à-dire un accompagnement des médecins généralistes et de l'ensemble des intervenants au domicile pour qu'ils aient le temps, la rémunération, la formation de vraiment assurer cette fin de vie de qualité. Il faut que la qualité de la fin de vie à domicile soit la même que celle de la fin de vie à l'hôpital.
Vous parlez de la formation, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'attirer des soignants. Le secteur des soins palliatifs, c'est un secteur qui recrute peu, finalement il attire peu.
Je pense qu'il y a une vraie question autour de la valeur qu'on accorde aux soins palliatifs et c'est aussi l'enjeu de cette culture palliative dont on parle. La culture palliative, c'est quoi? C'est redonner de la valeur à la possibilité du non-curatif et arriver à faire entendre que ce n'est pas de l'impuissance, que c'est simplement une phase de vie différente. Et ça passe par l'appropriation par les Français de leurs droits, ça passe par la connaissance de ces droits et c'est un des chantiers du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie dans les prochaines années que de vraiment faire avancer la connaissance de ces droits, droit aux soins palliatifs, droit au refus d'obstination déraisonnable, droit aux directives anticipées et surtout aux discussions anticipées qui vont permettre avec le médecin et aussi relayer avec les proches de vraiment avancer et droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ces droits aujourd'hui sont insuffisamment connus l'objectif de ces campagnes de communication qui vont avoir lieu, qui vont être lancées par le renouvellement du centre, c'est précisément de permettre aux Français de retrouver ce droit à l'autonomie et de réaliser comment ils peuvent se l'approprier.
Sarah Doshi, présidente du Conseil d'orientation stratégique du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Marion Lourd.
Le patron de l'entreprise Total, membre du conseil d'administration de Polytechnique, a-t-il profité de sa fonction pour imposer la construction sur le campus d'un bâtiment de recherche de l'entreprise pétrolière? L'affaire que nous avons déjà évoquée sur France Inter prend de l'ampleur avec l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Enquête ouverte en mai dernier pour prise illégale d'intérêt. Emmanuel Leclerc, que reproche-t-on précisément à Patrick Pouyanné?
Le PDG de Total est tout simplement accusé par une association des d'étudiant polytechnicien, la Sphinx, de nager en plein conflit d'intérêts dans cette histoire, en clair d'avoir profité de sa double casquette de patron du groupe énergétique et d'administrateur de la grande école d'ingénieurs publics sous statut militaire pour favoriser l'implantation d'un labo de recherche privé sur les énergies renouvelables au sein du campus. Une position très préférentielle par rapport aux autres grandes entreprises partenaires de l'école qui s'installent plus loin sur l'immense plateau universitaire de Saclay au sud de la capitale. La plainte auxquelles se sont associés les ONG Greenpeace et Anticor a donc été jugée recevable par le parquet national financier, même si ça ne préjuge en rien de son issue. Ce matin, Patrick Pouyanné a réagi en fustigeant l'accusation. Aucun mélange des genres, selon lui. La décision d'implantation du centre de recherche était actée avant son arrivée au conseil d'administration de Polytechnique. Il ne serait ensuite intervenu qu'une seule fois en faveur du projet, avant de se déporter et de quitter la Réunion. S'il devait être au final renvoyé devant un tribunal, le PDG de Total encourt 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter, merci. Dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, nouvelle audience aujourd'hui donnera la parole à l'ex-patron de la BRI, la brigade qui a mené l'assaut final au Bataclan. Mais avant lui, est appelé à la barre un commissaire de police, entré avant 22h dans la salle de concert parisienne. Le massacre venait de commencer. Ce commissaire et un brigadier de la BAC de nuit ont tué ensemble un premier terroriste et leur action a été déterminante pour mettre fin à la tuerie de masse. Le brigadier s'appelle Greg et il se confie à Sophie Parmentier.
Quand on arrive, en fait, les gens pour se protéger, c'était allongés les uns sur les autres pour faire les morts. Parce que les terreaux, une fois qu'ils ont fait quelques rafales, ils allumaient les victimes, une par une, au coup par coup. Donc nous, quand on arrive, c'est le silence complet. Et on voit un terroriste qui est sur la scène du Bataclan, qui est en train de mettre en joue une victime, un spectateur. Et en fait, on tire jusqu'à ce que le terroriste tombe, et à ce moment-là, ça explose.
Est-ce que vous avez eu peur de mourir quand vous êtes entré dans le Bataclan ?
La première fois qu'on est rentré, on s'est pas posé la question. C'est-à-dire qu'on est rentré, il fallait qu'on fasse le boulot, on est rentré. La deuxième fois, donc dans les minutes qu'on suivit, c'est plus tout à fait pareil parce que on savait où on mettait les pieds. Et d'ailleurs, avec le commissaire, l'un comme l'autre, hein, on a eu le même réflexe. Lui a appelé sa femme et moi j'ai envoyé un petit message à la mienne, juste pour un je t'aime. Et on est re-rentré parce que bah, on savait bien que ça allait être tendu, quoi. Voilà. Le fait d'avoir sauvé quelques personnes, ouais, ça fait plaisir.
Un témoignage à écouter avec d'autres en longueur sur notre site franceinter.fr. Rouler moins vite sur les autoroutes pour limiter le risque d'accident. La mesure figurera probablement au programme présidentiel de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a déjà limité la vitesse à 30 km/h dans la plupart des rues de la capitale. Mais faire ralentir les automobilistes sur les grands axes est déjà d'actualité dans plusieurs départements. Aujourd'hui, l'Allier, la Corrèze, la Creuse, le Cantal limitent tout leur réseau à 90 km/h. D'autres départements le font parfois à la carte, selon les tronçons. Le Tarn, par exemple, étendra prochainement la mesure, Thibault Lefèvre.
Dans le Tarn, le retour des 90 km/h se fait par petites touches. 177 des 4153 km de routes départementales sont concernées depuis déjà plusieurs mois. Et au début de l'année prochaine, la mesure portera sur 188 km supplémentaires. C'est un peu moins de 10% du réseau dont a la charge le président du conseil départemental, Christophe Ramon.
On a souhaité remettre les grands axes structurants à 90. J'assume le retour à 90 km/h, mais j'assume aussi le fait de mettre 1,70 lorsque j'estime que la route départementale devient un petit peu plus dangereuse du fait des évolutions des trafics.
Une réforme ciblée et prudente qui s'explique selon la responsable de la communication de la Ligue de défense des conducteurs, Alexandra Legendre, par les pressions que subissent les présidents de conseils départementaux.
D'abord, l'État a émis une liste de recommandations extrêmement sévère pour pouvoir revenir à 90 km/h, c'est-à-dire que pour un président de département, s'il arrive un accident sur une portion, on va se dire, bah, ce président de département, il a relevé la vitesse, patatras, il y a eu un accident mortel sur le tronçon concerné.
Selon la Ligue de défense des conducteurs, seulement 4% des 900 000 km de routes secondaires sont aujourd'hui limités à 90 km/h.
Là, le projet subit carrément un coup d'arrêt. La gigantesque transformation de la gare du Nord est abandonnée. Elle devait permettre de faire face aux grands événements sportifs à venir. Coupe du monde de rugby en 2023, Jeux olympiques en 2024. L'exécutif a réclamé réclamé ce matin à la SNCF un projet plus réduit de l'ordre de 50 millions d'euros contre 1,5 milliard pour la version initiale. Le partenaire du projet abandonné dénonce un manque de loyauté de l'opérateur ferroviaire. Ce n'est plus qu'une affaire de jours. Emmanuel Macron échangera bien d'ici la fin de la semaine avec le président des États-Unis au sujet de l'affaire des sous-marins, ce contrat du siècle annulé par l'Australie au profit de Washington. Vertement critiqué par les ministres français, l'annulation de cette commande ne semble pas choquer en Australie, sauf Kevin Rudd, ancien premier ministre travailliste. Le correspondant de France Inter à Sydney, Grégory Pless, l'a rencontré.
Une diplomatie bâclée. C'est ainsi que Kevin Rudd parle de Scott Morrison, qui, selon lui, n'a pas traité la France comme elle le méritait.
Firstly, he should have notified the French government.
En premier lieu, il aurait dû aviser le gouvernement français, puis naval, et enfin, il aurait dû lancer un nouvel appel d'offres et inviter la France, le Royaume-Uni, à y participer. Il a préféré se limiter aux anglophones. Je ne crois pas que cela soit dans l'intérêt des contribuables australiens et surtout pas dans l'intérêt de la relation franco-australienne.
Kevin Rudd soupçonne également Scott Morrison de s'être décidé sur un sujet d'une telle importance, aussi pour des raisons électorales.
Je pense qu'il y a des raisons qui relèvent de la politique intérieure qui sont rentrées en compte. Morrison a voulu se montrer très fort, important, avec du poil sur la poitrine devant son électorat, sur la question du défi posé par la Chine. Et il a vu la relation avec la France comme n'étant pas indispensable.
Les prochaines élections en Australie sont prévues l'année prochaine, elles se tiendront en mai au plus tard, et elles s'annoncent compliquées pour le Premier ministre sortant. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Et en France, le Sénat entendra dans les jours à venir le ministre français des Affaires étrangères et la ministre de la Défense. Loin des eaux profondes, France Inter vous connecte aux étoiles. Aujourd'hui, le téléphone sonne spécial en direct de la Station Spatiale Internationale à 19h. Nous serons avec Thomas Pesquet. En 4 mois et demi, l'astronaute a fait de la maintenance, mais aussi et surtout réalisé plus d'une centaine d'expériences. Et il en sera forcément question ce soir, Sophie Bécherel.
La Station Spatiale Internationale est un laboratoire semblable à ceux qu'on trouve sur Terre, à ceci près qu'il n'y a pas de gravité. Sciences des matériaux, développement de la vie, adaptation neuronale, ingénierie, on y fait beaucoup de choses différentes, parfois la même thématique depuis des décennies. Comme il est impossible pour un astronaute de tout maîtriser, on leur apprend à s'adapter, explique Sébastien Bard, responsable du CADMOS.
On prépare les expériences, on écrit les procédures d'une telle façon que pour l'astronaute, je dirais presque toutes les expériences sont un peu pareilles. Donc il n'est pas perturbé, il peut être efficace très très vite. Comme ça, ça nous permet de faire réaliser à l'astronaute, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont que 6, un maximum d'expérience et finalement avoir un retour scientifique le plus grand possible.
Les quelques 500 astronautes qui ont volé ont permis des avancées majeures sur l'ostéoporose, les gènes de résistance au stress, le rôle des radiations dans le vieillissement des organes par exemple. Cette fois-ci, l'une des expériences de la mission Alpha vise à améliorer le pilotage de robots à distance, un robot sur la Lune par exemple. Maurice Marna est ingénieur système au MEDES.
Tout le fonctionnement du cerveau, il est modifié. Nous, on réfléchit à mettre en application ce qu'on a appris en recherche de neurosciences fondamentales pour la conception de postes de travail pour les astronautes. Sachant que toutes ces problématiques, elles ont aussi des implications sur des patients qui ont des pathologies vestibulaires ou plus largement sur toutes les problématiques qui sont liées à la télémédecine, à la télérobotique, à la téléopération.
Enfin, une partie des expériences vise aussi à donner le goût des sciences aux enfants.
Et pour faire de la place à notre astronaute, le journal de 19h de France Inter démarrera un peu plus tôt ce soir autour de 18h45. Et puis la météorite géante est arrivée de l'espace et a exterminé les dinosaures il y a 66 millions d'années. Mais leur population était peut-être déjà en voie d'extinction. Une étude vient épaissir aujourd'hui le mystère autour de la disparition de ces grands animaux. Elle est signée de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier et de chercheurs britanniques et canadiens. Selon elle, avant l'impact de la météorite, la diversité des dinosaures diminuait déjà depuis quelques millions d'années. Avant de clore ce journal, je reviens sur l'information principale, ces annonces sur la situation sanitaire par la voix du porte-parole du gouvernement à Gabriel Attal. D'après lui, la situation sanitaire s'améliore. Il n'y aura cependant pas d'adaptation à ce stade du pass sanitaire. Il va rester en l'état. En revanche, dans les départements où le taux de contamination est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants, le port du masque sera abandonné à l'école primaire. Donc dans ces départements, il n'y aura plus de jauge non plus dans ces mêmes départements, dans les lieux publics. On reviendra bien sûr sur ces annonces dans nos journaux d'information ce soir.
France Inter, le 13-14. Marion Lourd.
Et à 13h24 sur Inter, votre rendez-vous cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Un titre solaire pour un sujet qui l'est beaucoup moins. Tout s'est bien passé. Nouveau film de François Ozon sur le thème de la fin de vie et du droit de mourir dans la dignité. On en parlait tout à l'heure. À l'écran, André Dussolier et Sophie Marceau dans un duo perfi que vous nous recommandez.
Oui, sujet difficile hein, qui raconte les derniers mois de la vie d'un père à la suite d'un AVC. Une histoire très intime incarnée par Sophie Marceau et André Dussolier dans le rôle de ce père pas toujours sympathique qui va demander à sa fille de l'aider à partir.
À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé.
Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter.
Je veux que tu m'aides à en finir.
Alors contrairement à ce que voudrait suggérer cette petite sonate pour piano de Brahms, c'est un film plein de vitalité que l'on va suivre à la manière d'un thriller autour d'un sujet brûlant comme l'était il y a 3 ans grâce à Dieu, un précédent film de François Ozon sur le thème de la pédophilie dans l'église. André Dussolier ici complètement transformé, remarquable dans le rôle du père octogénaire, Sophie Marceau, tout en sobriété. C'est un film adapté d'un livre d'Emmanuel Bernheim, aujourd'hui disparu, qui avait longtemps travaillé avec François Ozon. Ils avaient écrit ensemble plusieurs scénarios, Ricky, Swimming Pool ou encore Sous le sable.
You're in Marseille for vacation?
No, I'm visiting my daughter.
The father of the girl?
De plus en plus, elle fait rêver les cinéastes. La ville de Marseille est au cœur, Corinne, cette semaine, du nouveau film de l'américain Tom McCarthy, Stillwater.
Oscarisé en 2016 pour son film Spotlight, il adapte aujourd'hui l'affaire Amanda Knox, qui avait frappé les esprits autour d'une étudiante américaine accusée dans les années 2000 d'avoir tué sa colocataire. L'histoire s'était déroulée en Italie. Cette fois-ci, nous sommes à Marseille, la ville tendance avec ses bientôt 2 millions de spectateurs pour le film Back North. Et aujourd'hui, ces stars américaines, Abigail Breslin et Matt Damon dans le rôle d'un père du Midwest venu sauver sa fille de la prison. Il va découvrir dans le film les quartiers nord, le bouillonnement surtout d'une ville qu'il ne comprend pas. Matt Damon est un peu à contre-emploi mais très convaincant dans ce rôle de redneck un peu bourru, toujours à côté de la plaque. C'est assez amusant aussi de le voir esquisser quelques mots en français, donner la réplique à Camille Cotin. Le film reste quand même un peu long, il dure 2h30 et laisse un sentiment quelquefois mitigé.
Et puis dans votre sélection, Corinne, ce mercredi, ce film Coup de poing qui vous a bouleversé, c'est La voix d'Aïda sur le massacre de Srebrenica en 1995.
La pire tuerie perpétrée sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 8000 hommes exécutés par les Serbes de Bosnie. Le film revient sur ces massacres à travers l'histoire d'une femme, traductrice pour l'ONU, qui va tenter de sauver sa famille en dépit de tout, du manque, de la violence, de l'inaction aussi des forces internationales. Le résultat est d'autant plus fort que la réalisatrice Jasmila Zbanić était elle-même rescapée de la guerre en 2006. Elle avait remporté l'Ours d'Or à Berlin avec son premier film, à Sarajevo, mon amour.
Corinne Pellissier, Madame Cinéma de France Inter, merci à vous.
Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
Bah, ça va, t'es vaccinée, comme moi. Tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui?
Moi, j'avoue, j'hésite encore. Franchement, je préfère attendre.
Mais t'es sérieux? T'attends quoi? D'être hospitalisé?
Attends, la question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. C'est important aussi, les autres.
Ok, mais entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il protège vraiment ce vaccin?
On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Plus d'informations sur les lieux de vaccination sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Lily savoure une petite pépite française. Vous voyez de quoi je parle? Non, c'est pas du gâteau. Je parle de son lit. Fabriqué en France, comme 78% des produits Camif. Craquez pour un lit enfant sur camif.fr. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
Dans un instant, la présidente de la FNSEA et l'invité de France Inter, vos questions 01 45 24 7000. Il est 13h29 sur Inter. D'abord, le temps dans les champs et ailleurs, le temps pour votre mercredi 22 septembre.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Une après-midi ensoleillée pour presque tout le monde.
Oui, après-midi, à aller courir dans les champs, justement. C'est un soleil radieux qui est au programme dans l'ensemble pour cet après-midi. Entre le sud Bretagne, les bords de la Garonne, jusqu'aux Alpes et aux régions méditerranéennes, le ciel restera quasiment tout bleu. Plus au nord et au sud du bassin aquitain, un voile nuageux viendra quand même atténuer les apparitions du soleil, mais l'impression restera largement lumineuse. En revanche, quelques poches de grisaille pourront résister le long des côtes nord de la Bretagne. Et puis sur les Pyrénées, ce sont des bourgeonnements nuageux qui donneront un ciel plus nébuleux. Qui dit plus de soleil, dit plus de douceur. Après la petite fraîcheur matinale, les maximales seront généralement au-dessus des valeurs de saison. Elles seront comprises entre 19 degrés à Dieppe, Saint-Malo et Saint-Étienne, jusqu'à 29 degrés à Aubagne et Figari, avec 22 degrés pour Paris, Dijon et Biarritz, et 25 degrés à Toulouse. Attention quand même à l'ambiance plutôt fraîche la nuit prochaine, notamment sur un large quart nord-est.
Merci Sébastien Léas de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Le congrès s'est ouvert hier par une visite, les pieds dans la terre au milieu des chèvres et des vaches, rafraîchis par brumisateurs dans une ferme niortaise des Deux-Sèvres. Le syndicat agricole FNSEA tient en ce moment sa réunion annuelle, plusieurs fois repoussée pour cause de Covid. 3 jours de débat à huis clos avec 1200 agriculteurs. Mais l'invité du 13-14 de France Inter aujourd'hui va peut-être nous dévoiler les grands axes de discussion. C'est Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions à Christiane Lambert, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'application. On va commencer, Christiane Lambert, peut-être avec la question des prix et du pouvoir d'achat qui est dans l'actualité en ce moment. Les matières premières sont en hausse depuis des mois. Comment s'en sortent les agriculteurs ?
Avec une augmentation du prix des céréales de 30% depuis le début de l'année. Cela représente une augmentation forte de l'alimentation animale pour élever nos animaux et donc pour nous agriculteurs, avec des prix du lait ou de la viande qui n'augmentent pas, les marges se restreignent et donc les revenus vont s'en ressentir. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à la loi alimentation qui est en débat au Sénat en ce moment pour pouvoir avoir des revalorisations et des indexations de prix quand il y a de telles hausses.
On va en parler dans un instant de cette loi, Christiane Lambert, mais ça veut dire que vous, agriculteurs, dans les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs qui démarrent bientôt, vous allez pousser pour une hausse des prix, y compris pour les consommateurs ?
Aujourd'hui, les agriculteurs subissent des hausses sur l'alimentation animale, sur le carburant, sur les engrais. Les industriels subissent des hausses sur les cartons, sur l'acier, sur tous les emballages. Les jouets de Noël vont augmenter parce que l'acier et le bois est plus cher. C'est une réalité, nous n'y pouvons rien. L'alimentation aujourd'hui, c'est un budget qui a toujours baissé dans la dépense des ménages. Les distributeurs se livrent une guerre de prix épouvantable, mais ils ont détruit beaucoup de valeurs. Ils ont mis en faillite beaucoup d'industriels et d'agriculteurs. Beaucoup disent, y compris Emmanuel Faber de Danone et d'autres, que les Français ne payent pas l'alimentation au vrai coût. Et d'ailleurs, on importe beaucoup de produits venant d'ailleurs parce qu'ils sont moins chers. Est-ce que les Français veulent encore conserver des agriculteurs, ceux qu'ils ont plébiscités pendant le confinement, en disant qu'ils aimaient les petits producteurs, qu'ils aimaient les agriculteurs? Eh bien, l'acte d'achat est déterminant pour la pérennité de l'agriculture en France. Donc, ça sera quelques centimes. Un ménage dépense 350 euros par mois pour se nourrir. 350 euros. S'il y a une augmentation de 2 à 3%, ça suffit pour que les agriculteurs gagnent leur vie. Donc on ne parle pas de centaines d'euros, on parle de dizaines de centimes pour que l'agriculture française puisse vivre. C'est ça le vrai sujet.
Donc vous dites aux consommateurs, acceptez ces quelques dizaines de centimes pour que nous, agriculteurs, nous puissions fournir une alimentation de qualité, en clair.
Pendant le confinement, nous avons assuré, nous avons travaillé, ça nous a coûté plus cher à produire. Les consommateurs ont plébiscité les producteurs. Et d'ailleurs, les consommateurs disent à 75%, nous sommes prêts à payer plus cher si nous sommes sûrs que ça va jusqu'aux producteurs. Mais il y a les industriels et les distributeurs. Je rappelle l'an dernier que Carrefour, durant l'année 2020, a eu une augmentation de chiffre d'affaires de 7 à 8% et une augmentation de résultats de 16%. Les distributeurs se sont engraissés copieusement l'année dernière parce que les restaurants étaient fermés. Pensez-vous qu'ils ont renvoyé l'ascenseur aux fournisseurs ? Pas du tout. Donc chacun son tour. Moi, je suis pour un partage de la valeur.
Donc qui fait l'effort, le distributeur ? Qui fait l'effort, le distributeur ou le consommateur ?
Alors, c'est sûr que le distributeur peut réduire ses marges, mais il faut aussi que les consommateurs, vous-même, madame, si vous faites vos courses qu'avec des produits importés, est-ce que vous allez dire à votre voisine, à vos enfants, tu trouveras du travail en France ? Non ? S'il n'y a pas de production en France, il n'y aura pas d'emploi en France. Donc c'est chaque consommateur qui est concerné dans ses propres actes d'achat.
Christiane Lambert, la question des prix, elle va aussi avec celle, on en parlait, de la rémunération des agriculteurs. Le Sénat discute en ce moment une loi de régulation qui doit être promulguée fin octobre. La loi Egalim, qui limitait déjà la course aux prix bas dans les supermarchés, elle ne suffisait plus?
Non, la première loi ne suffisait pas parce que, d'une part, les distributeurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour contourner la loi. Là où les promotions étaient encadrées, ils ont inventé des prix flash, des prix choc, des prix bruts qui faisaient jusqu'à 70% de réduction. Eh bien, c'est une reprise en main du premier texte avec une consolidation obligeant à des contrats entre producteurs et industriels, puis une négociation entre industriels et distributeurs, construire les prix en marche avant en partant des coûts franco-français. Nous sommes en France, les salaires sont plus élevés qu'ailleurs, les charges sont plus élevées qu'ailleurs, les normes environnementales sont plus élevées qu'ailleurs, ça nécessite des prix qui sont construits en marche avant. Et c'est tout ce qui a manqué depuis des années pour conserver l'agriculture en France. Alors il faut que les sénateurs tiennent bon, ne détricotent pas ce qui a été voté à l'Assemblée nationale par les députés à l'unanimité. Il n'y a pas eu de bagarre gauche-droite.
Ça veut dire que vous avez le soutien de la majorité.
Voté à l'unanimité.
Ça veut dire que vous avez le soutien de la majorité.
Ben, il y a le soutien de la majorité, oui, parce que le gouvernement a porté cette loi-là, parce que nous avons poussé à ce qu'il y ait une deuxième loi, il faut qu'elle aille jusqu'au bout.
Et encore une fois, je reviens à la question du consommateur, mais est-ce qu'on ne va pas être perdant au final? C'est vrai que les gens sortent d'une crise sanitaire, pour certains, on est dans une situation économique difficile, les gens ont touché un peu moins d'argent avec le chômage partiel, etc.
Pas vrai, madame, regardez les vrais chiffres. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté, selon les sondages, de 0,6 ou de 1,4%. Il faut arrêter de toujours dire il y a moins de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est normal qu'il y ait moins de pouvoir d'achat et moins de revenus chez les agriculteurs? Est-ce que c'est... Madame, ce n'est pas vrai. L'inflation alimentaire a augmenté moins vite que l'inflation réelle.
Oui, mais si le reste des prix augmente...
Les produits agricoles ont été toujours moins chers. C'est pas normal de dire aux agriculteurs, vous allez devoir vendre moins cher parce que les consommateurs ont moins d'argent et les revenus baissent et il y a des difficultés et il y a moins d'agriculteurs. Vous pouvez pas dire tous les jours, on aime les agriculteurs, on veut les soutenir, mais en permanence dire, il faut que vous vous sacrifiez, chers agriculteurs, parce que les consommateurs ne peuvent pas. Je vous le redis, les consommateurs, eux, sont prêts à payer plus cher si ça vient aux producteurs, mais les distributeurs qui se livrent une guerre des prix fratricide pour se piquer des parts de marché détournent la valeur. C'est ça.
Et dans le cadre de cette loi au Sénat, vous demandez notamment que soient mieux identifiés les produits Made in France. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu là-dessus?
Oui, nous l'espérons, parce que nos emplois en France sont liés à la production française. Quand on importe 70% des poulets qui sont mangés dans les cantines, ce sont des emplois qui ne se font pas en France. C'est la production qui ne se fait pas en France. Ce sont nos amis, nos familles qui ne trouveront pas d'emploi en France. Donc nous voulons conserver cette production et il faut pour cela qu'on puisse étiqueter les produits avec le pays d'origine. Ça, c'est indispensable pour une bonne information du consommateur. Et d'ailleurs, sur ce sujet, les consommateurs le demandent très fortement.
Quand Sandrine Rousseau, qui est finaliste de la primaire écologiste, dit que les agriculteurs vont devoir accepter une baisse de rendement, est-ce que vous adhérez?
Non, Sandrine Rousseau dit beaucoup de bêtises, hein, c'est pas la première.
Bon, c'est votre avis en tout cas.
Oui, mais elle dit des très grosses bêtises, pardon quand même, hein, je l'ai écoutée sur les genres et sur le racisme et sur autre chose, je ne partage pas. Sandrine Rousseau est pour la décroissance, bien évidemment que nous ne sommes pas d'accord. Produire moins, c'est produire de la faim. La population mondiale augmente. Le besoin en alimentation en protéines augmente. Si on dit qu'il faut produire moins, moins de production, ça sera plus de faim dans le monde et ça sera même plus de gens en France qui arriveront moins à manger parce que l'alimentation sera plus chère.
Christiane Lambert, vous dites que les agriculteurs sont des écologistes experts, hein, même si vous n'aimez pas Sandrine Rousseau, mais le rendement a longtemps primé, c'est vrai. Alors, on a une question de Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Votre question à Christiane Lambert.
Eh bien, j'habite dans la campagne, j'ai le plus grand respect des agriculteurs éleveurs, surtout, qui font un métier difficile, qui ne comptent pas leurs heures, et qui surtout qui sortent leurs vaches dans les prés, ce qui devient de plus en plus rare. Je trouve, Madame Lambert a raison, c'est normal de mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Cependant, l'élevage intensif est de plus en plus montré du doigt, l'agriculture bio rencontre un succès grandissant. Je n'explique pas le peu d'enthousiasme de la FNSEA à défendre les filières pourvoyeuses d'emplois et respectueuses d'environnement. D'année en année, on entend le baratin habituel des dirigeants de la FNSEA.
Là aussi, c'est votre avis.
Les ravages de l'agriculture intensive. J'aimerais simplement dire, pour terminer, que les dirigeants de la FNSEA, présents et à venir, en viennent à cultiver l'honnêteté intellectuelle. Il vous faudra beaucoup, beaucoup d'engrais, madame.
Merci pour votre point de vue, Patrice, pour votre opinion. Christiane Lambert, votre réaction.
C'est beaucoup d'agressivité, c'est mal connaître les dirigeants de la FNSEA. Dans mon conseil d'administration, 10% des élus pratiquent l'agriculture biologique, c'est fidèle à la surface cultivée en agriculture biologique. Et nous portons ce sujet-là, mes représentants sont à Tekken Bio. Ce que je vois aussi, et j'invite monsieur à consommer davantage bio, c'est que aujourd'hui nous avons 25% du lait, un quart du lait qui est produit en bio, qui ne trouve pas d'acheteur. Donc il faut aussi que les consommateurs honorent la commande. Tout le monde veut plus de bio, mais les Français ne l'achètent pas. Un quart du lait bio est aujourd'hui déclassé. Donc il faut que la consommation, là aussi, suive et que nous puissions avoir cela. Alors, évidemment, c'est facile de lancer des anathèmes comme ça, mais c'est preuve quand même d'une grande méconnaissance. L'élevage, il est fait aujourd'hui dans des conditions de bien-être, et la France est d'ailleurs reconnue comme un bon élève au niveau européen par rapport à la mise en œuvre des normes qui existent. Des progrès sont faits chaque année sur le sexage des poussins, qui va éviter de détruire les poussins mâles, sur un certain nombre de pratiques sur les animaux, et il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui sont faits en matière de bien-être.
J'allais vous en parler, Christiane Lambert, cette loi, elle va s'appliquer à partir de l'an prochain, il y a effectivement la fin du broyage des poussins, de la castration à vif des porcelets, ça va coûter quelque chose, qui est-ce qui va prendre en charge ce coût ?
Eh bien, c'est là qu'on va voir si effectivement les consommateurs sont citoyens. Le ministre de l'Agriculture, la semaine dernière, intervenant dans au SPAS, le sommet d'élevage à Rennes, a dit « Oui, c'est vrai, ça va coûter plus cher, 1 centime de plus par œuf, pour qu'on puisse faire le sexage des poussins dans l'œuf et éviter d'avoir à tuer les poussins mâles. Ça coûte 1 centime de plus par œuf. Est-ce que les Français vont être au rendez-vous ou pas ? C'est pas aux agriculteurs de payer cette charge-là, puisque c'est une demande de la société. Et comme a dit le ministre, citoyen le matin, puis consommateur dans le quart d'heure qui suit. » Il faut qu'il y ait une cohérence de tout cela. Moi, je crois que cette élévation du niveau qualitatif, elle est normale. Il faut plus de bien-être et nous le faisons. D'ailleurs, nous le faisons depuis quelques années et nous savons qu'il faudra en faire plus demain. Mais il faut qu'on objective les coûts, combien ça coûte et qui prend en charge. Et c'est pas anormal. Moi, quand j'achète une voiture avec des options, je paye les options supplémentaires. Je fais le choix de rouler en Clio, pas en SUV XXL qui coûte 2 fois plus cher. C'est un choix. Si je veux des options, je paye plus cher. Eh bien, tous les consommateurs doivent avoir le même raisonnement pour l'alimentation.
On a une question de Gérard, Christiane Lambert, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Gérard.
Bonjour, bonjour Madame Lambert. Je vous appelle pour poser la question suivante. Comment se fait-il qu'il faille qu'on importe du soja, notamment pour nourrir les vaches, alors que les vaches, généralement, ça mange de l'herbe, et que d'autre part, certains paysans qui cultivent eux-mêmes leurs céréales sur leurs parcelles s'en sortent finalement pas si mal que ça.
Merci Gérard. Christiane Lambert, effectivement, il y a cette question de l'alimentation des animaux. Il y a aussi les farines animales qui vont éventuellement pouvoir revenir pour nourrir un certain nombre d'animaux. Alors, votre position là-dessus.
Alors, c'est vrai que l'Europe a fait le choix dans les années 60 d'être fortement importatrice de soja, de protéines. Il s'est avéré que dans les pays où ce soja s'est développé, ils l'ont fait en pratiquant la déforestation, ce qui est condamné et encadré aujourd'hui. Nous voulons réduire fortement, voire stopper ces importations de soja brésilien, sud-américain notamment, qui est synonyme de déforestation. Voilà pourquoi nous avons poussé le gouvernement depuis 20 ans à mettre en place un plan protéines. Ça a tardé à venir. Cette fois-ci, il est là. Le ministre de l'Agriculture l'a fait, le président de la République l'a dit lui-même lors du sommet du G7 de Biarritz, il faut absolument produire davantage de protéines en Europe. Il faut cultiver des légumineuses, des protéagineux, de l'herbe. L'herbe, c'est 13 millions d'hectares en France, la moitié de la surface. Mais il y a des éleveurs qui élèvent leurs animaux aussi avec du maïs. Et en complément, il faut des protéines. Et bien, de plus en plus, on les produit avec des colzas. Dans mon élevage de porc, j'ai totalement supprimé le tourteau de soja. Nous sommes à 100% tourteau de colza français grâce aux biocarburants de la filière Diester Industrie et aux tourteaux de colza qui sont produits en parallèle. Donc là aussi, c'est une évolution positive de l'agriculture française. Donc,
Christiane Lambert, Pierre, qui nous contactait à France Inter, demande quand vous allez vous mettre réellement à combattre le glyphosate. Et j'ajoute ma propre question qui est l'Europe doit décider d'ici la fin de l'an prochain de réautoriser ou non le glyphosate, l'herbicide, et quelle est la position de la FNSEA là-dessus ?
Alors, le président de la République avait fait une déclaration très vive en disant en France, nous avons supprimé le glyphosate sous 3 ans, et puis il est revenu en arrière, parce qu'il s'est rendu compte de lui-même qu'il avait certainement parlé un peu trop vite. Il s'est déplacé, par exemple, dans l'Eure, où il a vu un agriculteur qui pratique l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire qu'il ne laboure pas pour capter plus de carbone dans ses sols. Et en captant du carbone, c'est très bénéfique pour le climat. Mmh. De plus en plus d'agriculteurs le font. Mais cet agriculteur dit aussi, pour réussir, j'ai besoin de glyphosate. Les agriculteurs qui ont des vignes ou des vergers en pente et qui versent leur tracteur quand ils vont désherber, disent aussi, nous avons besoin de glyphosate. Donc je crois qu'il faut revenir à au pragmatisme sur ce sujet. Le président de la République a dit récemment, la semaine dernière, désormais, toutes les interdictions de phyto, de produits phytosanitaires, il faut les raisonner au niveau européen. Mmh. Déjà, c'est bien, parce que c'est pas seulement la France. Si les produits sont dangereux, ils sont dangereux en France et ailleurs. La France est souvent interdit un certain nombre de produits, et les productions sont faites ailleurs. Donc le renouvellement du glyphosate, c'est fin 2022, et d'ici là, les agences Merci. Vont s'exprimer à nouveau. Moi, je ferai confiance aux scientifiques.
Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, en direct avec nous depuis le congrès du syndicat agricole à Niort. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
France Inter, le 13-14.
2h moins le quart sur France Inter à suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Un personnage au centre de votre chronique aujourd'hui.
Oui, avant le candidat d'extrême droite Z, il y a eu le candidat d'extrême droite TV.
Et une...
Tixier Vignancourt,
votre chronique c'est juste avant 14h. Et nous aurons aussi le feuilleton qui est consacré cette semaine à une semaine dans la vie des militants de gauche. Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Plus que quelques jours pour aller découvrir à l'Institut du Monde Arabe l'exposition Diva d'Oum Kalsoum à Dalida. Il y en a beaucoup des fans d'Oum Kalsoum et il existe aussi beaucoup de fans de Dalida. Vous en avez rencontré une.
Elle s'appelle Amélie Blochstein-Nidam et elle est rédactrice en chef du site toutelaculture.com. Comme son nom l'indique, c'est un site dédié à l'actu culturelle. Elle a choisi de me parler d'une chanson qu'elle a découverte adolescente à Avignon dans le film Mina Tannenbaum.
Je vais voir ce film avec mes parents à l'époque, donc Mina Tannenbaum, qui raconte l'histoire de deux amis qui sont joués par Elsa Silberstein et Roman Boringer. Et c'est l'histoire d'une amitié quasiment amoureuse. Elles sont amies à la vie, à la mort. Elles passent des années ensemble et un jour ça se termine. Et l'un des moments clés du film, c'est Elsa Silberstein qui chante avec éclat, avec toutes les mimiques du monde, avec tous les signes possibles. Elle envoie les cheveux, elle envoie les yeux. La chanson de Dalida, il devait d'avoir 18 ans.
Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires.
Je découvre Dalida grâce à cette scène. Et après ça, je me mets à écouter tout Dalida et je suis très fan. Et surtout, ce qui se passe, c'est que le film vient agir comme un miroir sur ma vie. C'est-à-dire que de la sixième à la troisième, j'avais une meilleure amie. Alors, on est encore à Avignon. À ce moment-là de l'histoire, j'ai entre 11 et 13 ans et demi, quoi. Et à la fin du collège, cette amie très proche me quitte pour une autre. Et en fait, cette histoire se termine violemment pour moi. C'est-à-dire que je la vis vraiment comme une rupture amoureuse. Cette rupture amicale. Donc ça se passe à la fois comme dans le film, mais également comme dans la chanson. Mais ça, je ne l'avais pas forcément compris à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'entends la chanson, pour moi, c'est un effet coup de poing, je ne m'en remets pas.
Elle est débile, cette chanson.
Non, elle n'est pas débile, c'est toi qui comprends rien.
Parce que dans la chanson, elle dit « J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. » Et c'est ça que j'ai vécu. J'aurais voulu la retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Et elle est partie. Et on n'a jamais réussi à redevenir amis.
Vous êtes senti trahi?
Totalement trahi, piétiné, humilié, enfin une rupture quoi. Je me suis sentie délaissée, anéantie. Voilà, c'était très triste.
Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire.
C'est un morceau de 1973, Frédéric.
Et un morceau qui aujourd'hui n'est heureusement plus seulement associé à un souvenir triste pour Amélie Blochstein-Nidam.
J'adore cette chanson, elle me fait rire et pleurer en même temps et j'ai souvent dansé dessus après avec plein d'autres amis, avec plein d'autres copains. On l'a souvent hurlé, on l'a souvent chanté très très faux, très très tard ou très très tôt, ça dépend comment on prend les choses. Et j'adore la chanter, c'est pas douloureux de l'entendre, c'est pas douloureux de la chanter. Mais c'est comme une bouée en fait, c'est une chanson qui m'accompagne dans ma vie. Mais ça c'est tout Dalida finalement, c'est pas juste il venait d'avoir 18 ans. parce que Dalida, parce que la diva, parce que la diva née en Égypte, parce que ce que ça veut dire l'exil, parce que ce que ça veut dire être une femme à ce point féministe, que ça veut dire être une femme qui a autant souffert aussi. Dalida, elle représente tout ça. La femme, ultra glamour, ultra fragile, ultra tout. Elle représente la femme, vraiment.
J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.
Il venait d'avoir 18 ans, c'était donc le choix d'Amélie Bloch-Thein-Needham et l'expo Diva à l'Institut du Monde Arabe, c'est jusqu'à dimanche. Merci Frédéric Pommier et à vendredi, car demain le 13-14 et Bruno Duvic sont à Limoges pour parler de l'accueil des réfugiés. À 2h10 sur Inter, troisième épisode de notre feuilleton, une semaine dans la vie de militants de gauche, alors que les candidatures à la présidentielle se multiplient de ce côté de l'échiquier politique. Lundi, vous avez entendu des socialistes, hier un écologiste, aujourd'hui parole aux militants de la France Insoumise, rencontrés aux amphis d'été à Valence. Comment se sont-ils engagés? Quels sont les sujets qui leur tiennent à cœur? C'est ce qu'ils ont confié à Laurence Perron.
Vous êtes devenu militant quand, à LFI?
Durant la campagne de 2017. J'étais militant politique dans des organisations de jeunesse avant, des organisations étudiantes. Et donc, au départ, de par ma famille, j'étais plutôt proche du PS. Mais bon, après, avec le mandat de François Hollande, j'ai pas vraiment adhéré à la suite. On n'oublie pas la déchéance de nationalité. Hein. Ça a bien coûté, la loi travail. Et en fait, après, en écoutant le discours de Mélenchon, les propositions de la France Insoumise, pour le coup, au moins, on savait avec quoi on partait. Ils ont un programme. Enfin, maintenant, je peux dire nous. Nous, on a un programme et on a quelque chose. Et c'est des choses assez claires. Et pour le coup, Mélenchon, justement, sur la laïcité, moi, c'était quelque chose qui était important. Et je trouve qu'il était assez précis, justement, sur ça en 2017. Et je vois pas pourquoi ça aurait changé aujourd'hui. Il a plein de défauts et il les garde. Il est un peu méditerranéen comme idée, des fois. Voilà. Et au moins, il est clair.
Et vous êtes devenue militante quand?
En 2017 aussi. Moi je suis infirmière, je travaillais aux urgences à l'époque, donc vu que je souffrais quand même beaucoup au travail par rapport aux fermetures de lits, tout ça, et puis on se sent vite en manque de moyens quoi face à l'urgence sociale que je trouvais à l'hôpital, je me suis dit pourquoi pas me lancer en politique, en tout cas commencer à apprendre certaines choses parce que je connaissais rien du tout à l'époque. Hein. Donc c'est plutôt ça qui m'a attirée, et puis le féminisme aussi. Et aussi il parle beaucoup des animaux. Je fais partie de L214, donc forcément ça me tenait aussi à cœur. Et il en a parlé lors du discours de l'année dernière, ce qui est quand même un grand discours, et j'ai trouvé ça osé. Et du coup, je me suis dit, oui, ça y est, on va avoir quelqu'un qui va porter des choses qui vraiment révolutionnaires sur les animaux, quoi. Et du coup, forcément, l'écologie. Hein. Pour moi, c'est le regroupement de tout ça. Qu'on met pas la lutte sociale tout en haut, là, avec le capitalisme. Oui, ok, faut... Ah bah le capitalisme, certes, mais il y a aussi le patriarcat, quoi. Et puis surtout le patriarcat. Tu fais quoi, toi, exactement, ici?
Je suis venu aux amphis. Donc moi, je m'occupe de toute une réflexion sur le bâtiment, comment on pourrait transformer le bâtiment en bois, en terre crue, en paille, et diminuer les gaz à effet de serre et créer de l'emploi.
Tu t'appelles comment ?
Michel.
Et comment t'es venu à la France Insoumise au départ ?
Moi, je votais pas, j'étais pas dans cet univers-là, et puis ça m'a plu parce que c'était très concret. Moi, j'avais milité dans des assos, mais pas politique, quoi, voilà. J'habitais à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe. On a signé des déchets dangereux, il y avait des enfants qui étaient malades, etc. Et puis à un moment, j'en ai eu marre du militantisme, j'en ai eu marre de l'autonomie, et je me suis dit, faut trouver peut-être aussi un débouché politique. J'auditionnais la Fondation pour la Nature et l'Environnement qui disait, faut plus construire. Puis on a auditionné la Fondation Abbé Pierre qui dit, il faut construire et des gens à la rue. Et alors, au bout de 5-6 auditions, je me suis dit, comment on va s'en sortir? Et puis on a essayé de faire comme un Rubik's Cube, que toutes les faces soient gagnantes. Et puis après ça, la France Insoumise m'a dit, c'est notre programme, c'est bon. Et c'était chouette parce que souvent, on ferait un parti à chaque facette du Rubik's Cube, c'est-à-dire qu'on ferait la facette écologique, on fait un truc écologique, on fait une facette sociale, on fait un truc social. Et là, on a mélangé tout. Et moi, je trouve ça super intéressant. Merci.
Une semaine dans la vie de militants de gauche, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, l'actualité par le prisme de l'histoire. On parle élection présidentielle aujourd'hui, Jean Lebrun. La première au suffrage universel se tient en décembre 1965. Un homme la prend très au sérieux et crée un comité d'initiative pour départager, dirait-on aujourd'hui, les candidatures nationales. C'est Jean-Marie Le Pen qui contribue à faire émerger dès 1964 le nom de Jean-Louis Texier-Vignancourt.
Dit TV, vous aviez de suite un bel acronyme. Vous ajoutiez en haut du V une flèche dirigée vers la droite et c'était un logo qu'on pouvait inscrire facilement sur les murs. Ces choses-là ont de l'importance. Texier, 57 ans, était un avocat. Alors au sommet de sa carrière, sa voix de bronze était redoutée. La SERP, la société d'édition phonographique de Le Pen, avait édité avec succès ses plaidoiries. Enfin, pour l'extrême droite, il disposait des herbes de la Saint-Jean.
Les herbes de la Saint-Jean, c'est encore une de vos formules magiques, Jean.
Oui, magique. Le jour de la Saint-Jean pousse certaines herbes qui disposent d'une grande puissance. Et Texier n'avait cessé de les cueillir dans tous les coins du jardin de l'extrême droite. Jeune homme, il milite à l'Action française. Le 6 février 34, lors de la tentative factieuse de renversement de la République, il se bat jusqu'au bout dans la rue. En 36, élu député d'Orthez, il franchit les Pyrénées pour aller faire hommage au général putschiste Franco. Et à Paris, il manifeste sa sympathie à Jacques Doriot, leader du parti proto-fasciste le PPF. En 40, le 5 juillet à Vichy, il joue un rôle dans la réunion du Parlement qui aboutit à conférer les pleins pouvoirs à Pétain. Le journaliste Maurice Martin Dugard le décrit, le torse en avant, plein de sa pétulance ordinaire, qu'enfièvre le souvenir de ses exploits militaires pendant la campagne perdue. À la tribune, il demande la mise en accusation des dirigeants de la République et dans les couloirs, je cite toujours Martin Dugard, il mange du juif et guette pour l'injurier, une fois encore, Léon Blum. Ben voilà, Maurras, Doriot, Pétain, les herbes de la Saint-Jean dont dispose Texier, excusez du peu.
Et Jean, il appartient aussi au premier cercle à Vichy, mais seulement pendant quelques mois.
Oui, secrétaire général à l'information, on lui doit un nouveau statut pour le cinéma et l'organisation de la censure à la radio.
Merci
Texier. Que s'est-il passé pour qu'il soit écarté? J'ai lu qu'il avait fait courir des bruits sur la maréchale Pétain. Or, celle-ci constituait un des points faibles du chef de l'État, épousé sur le tard, divorcé, ses photographies étaient généralement interdites de reproduction et mieux valait ne pas parler d'elle. En tout cas, sa mise à l'écart sauva Texier d'une condamnation sévère à la libération. Il fut cependant déclaré inéligible. Il poussa ensuite ses feux au barreau. Puis, quand il lui fut possible de se représenter, il redevint député d'Orthez en 56. Il avait candidaté au nom du Rassemblement National qu'il avait fondé en 54. Le retour du général de Gaulle fut fatal à sa carrière parlementaire. Il ne retrouva pas son siège en 58.
Mais la guerre d'Algérie le remet au premier plan.
Il est l'avocat numéro un des chefs de l'Algérie française. Il défend ainsi devant une cour militaire le chef des auteurs d'attentats, Salan, le patron de l'OAS, Françoise Giroud dans l'Express. En fait, ce n'est pas Salan qui a choisi Texier pour sa défense, mais Texier qui a choisi Salan pour accuser de Gaulle. Et non seulement il sauve la tête de Salan, mais il écornifle la statue de Gaulle.
Enfin, c'est la candidature à la présidentielle.
Ben oui, il se déclare 18 mois à l'avance et il passe l'été 65 sous un chapiteau que lui a aménagé son directeur de campagne, Jean-Marie Le Pen. Il fait les plages avec des succès divers mais incontestables là où habitent les rapatriés d'Algérie. Mais si sa voix porte en plein air, elle ne passe pas sur le petit écran et surtout, ses thématiques s'entrecroisent sans bien s'emboîter. Ainsi, sa défense acharnée de la liberté d'entreprise, si elle satisfait les milieux d'affaires qui ont toujours porté intérêt à l'extrême droite ne convient pas nécessairement à la partie déclassée de son électorat. Il ne fera que 5,2% des voix. La carrière politique de Texier ne se remettra pas de cet échec. Il se consacrera essentiellement à l'amnistie des crimes d'Algérie française, obtenue de Gaulle lui-même dès juillet 68 et parachevée par Mitterrand. Et ensuite, les herbes de la Saint-Jean pourront repousser que notre crise sociale et politique qui avait manqué à Texier pour réussir arrosera interminablement.
Le vif de l'histoire. Merci Jean Lebrun. On vous retrouve vous aussi vendredi.